Chapitre 19. Beren et Luthien. Parmi les récits de souffrance et de malheur qui nous viennent de la noirceur de ces jours, il en est pourtant où la joie renaît parmi les pleurs, où une lumière subsiste dans l'ombre de la mort. Et aux oreilles des elfes, la plus belle de ces histoires demeure le conte de Beren et Luthien. De leur vie fut tiré le lait de Lethian, la libération des fers, qui est le plus long des chants concernant le monde d'autrefois, à l'exception d'un seul. Mais le conte est relaté ici de manière plus brève et non chantée. Il fut raconté comment Barahir refusa d'abandonner le Dorthonion, où Morgoth le pourchassa jusqu'à la mort, si bien qu'il ne lui resta plus que 12 compagnons. Or, la forêt du Dorthonion s'élevait vers le sud en des landes montagneuses, et dans l'est de ces hautes terres gisait un lac, le Tarn Ailwin, entouré de bruyères, et tout ce pays était sauvage et inexploré, car même au temps de la longue paix, nul n'y avait vécu. Mais les eaux du Tarn Ailwin étaient révérées, car de jour, elles étaient d'un bleu limpide, et de nuit, un miroir pour les étoiles. Et l'on disait que Melian elle-même les avait bénies dans l'ancien temps. C'est ici que Barahir et ses hors-la-loi trouvèrent refuge, et ils y firent leur repère, et Morgoth ne put le découvrir. Mais la rumeur des exploits de Barahir et de ses compagnons courut par monts et par veaux, et Morgoth ordonna à Sauron de les trouver et de les réduire à néant. Or, parmi les compagnons de Barahir, se trouvait Gorlim, fils d'Angrim. Son épouse se nommait Eilinel, et un grand amour les unissait, avant que le malheur arrive. Mais Gorlim, en rentrant de la guerre sur les marches, avait trouvé sa demeure pillée et laissée à l'abandon, et sa femme avait disparu. Tué ou capturé, il n'en savait rien. Il avait alors fui auprès de Barahir, et c'était de tous ses compagnons le plus féroce et le plus désespéré. Mais il était taraudé par l'idée qu'Eilinel n'était peut-être pas morte, et ce doute lui rongeait le cœur. Il lui arrivait de retourner, seul et en secret, à la maison qui se dressait encore parmi les champs et les boisés qu'il possédait autrefois. Et ses visites vinrent aux oreilles des serviteurs de Morgoth. Par un soir d'automne, il arriva à la descente du crépuscule. Et en se rapprochant, il crut discerner une lueur à la fenêtre. Il s'avança avec prudence et regarda à l'intérieur. Là, il aperçut Eilinel, la figure ravagée par la faim et le tourment, et il lui sembla entendre sa voix se lamenter de ce qu'il l'avait abandonné. Il lâcha un cri, et à cet instant, la lueur s'éteignit comme soufflée par le vent. Des loups hurlèrent, et il sentit soudain sur ses épaules la lourde étreinte des chasseurs de Sauron. Ainsi fut-il pris au piège, et après l'avoir emmené à leur campement, ils le torturèrent, cherchant à découvrir les caches de Barahir et tous ses faits et gestes. Mais Gorlim ne voulut rien dire. Alors ils firent promesse de le libérer et de le ramener à Eilinel s'il cédait. Et à la fin, recrut de douleur et désireux de revoir sa femme, il capitula. Sur quoi ils l'emmenèrent aussitôt en l'affreuse présence de Sauron, et Sauron dit « J'apprends que tu voudrais troquer avec moi. Quel est ton prix ?» Et Gorlim répondit qu'il lui faudrait retrouver Eilinel, et qu'elle et lui fussent délivrés, car il croyait qu'Eilinel aussi était prisonnière. Lors, Sauron esquissa un sourire, disant « Un bien vil prix pour pareille trahison. » Il en sera ainsi, nul doute. Dis. Or Gorlim se fut rétracté, mais le regard de Sauron le terrifiait, et il révéla enfin tout ce qu'il savait. Lors, Sauron rit, et il se moqua de Gorlim, lui avouant que ce qu'il avait vu n'était que sorcellerie, un fantôme destiné à le piéger, car Eilinel était morte. Néanmoins, j'exaucerai ta prière, dit Sauron. « Et tu seras auprès d'Eilinel et délivré de mon service. » Sur quoi, il le fit cruellement mettre à mort. C'est ainsi que le repère de Barahir fut découvert, et Morgoth tendit ses filets alentour. Et les orques vinrent aux heures tranquilles précédant l'aube, et ils surprirent les hommes du Dorthonion, et les massacrèrent tous, sauf un. Car Beren, fils de Barahir, était parti en une dangereuse mission à l'instigation de son père, afin de surveiller les faits et gestes de l'ennemi, et se trouvait fort loin de leur repère quand celui-ci fut attaqué. Mais tandis qu'il dormait, surpris par la nuit en pleine forêt, il rêva d'un lac bordé d'arbres dénudés, où des charognards étaient perchés comme autant de feuilles sombres, et un filet de sang coulait de leur bec. Lors, Beren sentit dans son rêve qu'une forme s'approchait de lui au-dessus de l'eau, et elle lui parla. Et c'était un spectre de Gorlim qui lui annonçait sa traîtrise et sa mort, et le hâta d'aller prévenir son père. Lors, Beren s'éveilla et fila dans la nuit, et il parvint au repère des hors-la-loi le surlendemain au matin. Mais comme il approchait, les charognards prirent leur vol et se perchèrent dans les aulnes au bord du Tarn Ailwin, poussant des cris moqueurs. Là, Beren ensevelit les restes de son père, et il dressa au-dessus un cairn de pierre, sur lequel il fit un serment de vengeance. Ainsi, il poursuivit d'abord les orques qui avaient tué son père et ceux de son clan. Et à la nuit, il tomba sur leur campement à la fontaine du Rivil, au-dessus du marais de Selek, et son expérience de forestier lui permit d'approcher leur feu sans être vu. Leur capitaine se vantait de ses exploits, et il brandissait la main de Barahir qu'il avait prise en guise de trophée, pour prouver à Sauron que leur mission était accomplie. Et l'anneau de Felagund brillait à un doigt de cette main. Lors, Beren surgit de derrière un rocher et terrassa le capitaine, et s'emparant de la main et de l'anneau, il prit la fuite, protégé par le sort, car les orques étaient abasourdis et leurs flèches s'égarèrent. Pendant 4 années encore, Beren sillonna les hauteurs du Dorthonion, seul et hors la loi. Mais il devint l'ami des oiseaux et des bêtes, et ils lui vinrent en aide et ne le trahirent point. Et à partir de ce jour, il ne mangea plus de viande et ne prit la vie d'aucune créature qui ne fût au service de Morgoth. Il ne craignait pas la mort, mais la captivité. Et comme il était hardi et dénué d'espoir, il échappa au fer autant qu'à la mort. Et l'audace de ses prouesses solitaires fut claironnée aux 4 vents, partout en Beleriand et même jusqu'au Doriath. Enfin Morgoth mit sa tête à prix, offrant non moindre récompense que pour Fingon, grand roi des Noldor. Mais les orques fuyaient à la rumeur de son approche plutôt que d'aller à sa recherche. Aussi envoya-t-on contre lui une armée sous le commandement de Sauron. Et Sauron emmena des loups-garous, des bêtes redoutables, habitées par de terribles esprits qu'il avait emprisonnés dans leur corps. Le pays entier était désormais sous l'emprise du mal, et tout ce qui était pur le fuyait. Et Beren se trouva serré de si près qu'il dut se résoudre à quitter le Dorthonion. Partant d'hiver, sous la neige, il abandonna le pays et la tombe de son père, puis, s'étant hissé sur les hauteurs de Gorgoroth, les montagnes de la terreur, il entrevit au loin le pays de Doriath. Là, il sentit l'injonction placée en son cœur et sut qu'il descendrait dans le royaume caché, qu'aucun mortel n'avait encore foulé de ses pas. Terrible fut son voyage vers le sud. Les Ered Gorgoroth plongeaient en de dangereux précipices, et à leurs pieds s'étendaient des ombres plus anciennes que la lune. Au-delà se trouvait la désolation de Dun Gortheb, où les maléfices de Sauron et le pouvoir de Méliane se rencontraient, où l'horreur et la folie marchaient à découvert. Des araignées de l'engeance maudite d'Ungoliant y habitaient, tissant leurs toiles invisibles dont aucun être vivant ne pouvait se déprendre. Et des monstres enfantés dans la longue nuit d'avant le soleil y chassaient en silence, épiant leur proie de leurs multiples yeux. Il n'y avait dans ce pays hanté rien pour la subsistance d'un elfe ou d'un homme, mais la mort seulement. Ce voyage de Beren n'est pas compté comme un mince exploit parmi ses grandes prouesses, mais il n'en parla jamais à quiconque, de crainte que l'horreur ne revînt le hanter. Et nul ne sait comment il trouva sa route par des chemins qu'aucun autre que lui, elfe ou homme, n'osa jamais prendre jusqu'aux frontières du Doriath. Et il traversa les dédales que Méliane avait ourdis autour du royaume de Fingol, comme elle-même l'avait prédit, car un destin éminent l'y conduisait. Il est dit dans le lait de Léfian que Beren arriva titubant au Doriath gris et courbé comme par des années de malheur, tant le voyage l'avait éprouvé. Mais comme il vaguait en été dans les bois de Neldoreth, il rencontra Luthien, fille de Thingol et Melian, un soir au lever de la lune, alors qu'elle dansait dans l'herbe immortelle des clairières au bord de l'Esgaldwin. Alors toutes ses souffrances s'évanouirent de sa mémoire, et il tomba sous l'effet d'un charme, car Luthien était la plus belle de tous les enfants d'Ilúvatar. Bleu était son vêtement, tel un ciel azur, mais ses yeux étaient gris comme la voûte étoilée. Sa mante était semée de fleurs d'or, mais sa chevelure noire comme les ombres de la nuit. Comme le soleil jouant sur les feuilles, comme la voix des eaux limpides, comme les étoiles au-delà des brumes, telles étaient sa gloire et sa beauté, et son visage était d'une lumineuse clarté. Mais elle se déroba à sa vue, et il resta sans voix, comme sous l'emprise d'un sortilège, et il erra longuement dans les bois, furtif, farouche comme une bête, afin de la retrouver. Dans son cœur, il l'appelait Tinouviel, c'est-à-dire Rossignol, ou fille du crépuscule, dans la langue gris elfique, car il ne lui connaissait aucun autre nom. Et il la voyait au loin comme les feuilles balayées par un vent d'automne, et en hiver telle une étoile au sommet d'une colline, mais ses membres restaient enchaînés. Il vint une nuit à la veille du printemps, et peu avant l'aube, Tinouviel dansait sur une colline verte quand soudain elle se mit à chanter. C'était un chant clair, un chant à transpercer le cœur, comme le chant de l'alouette qui s'élève aux portes de la nuit et verse sa musique parmi les étoiles mourantes, voyant poindre le soleil derrière les murailles du monde. Et le chant de Luthien libéra l'hiver de ses entraves, et les eaux gelées retrouvèrent la voix, et des fleurs jaillirent de la terre glacée où s'étaient posés ses pas. Lors, Beren fut délivré du sort qui scellait ses lèvres, et il l'appela Tinouviel. Et les bois reprirent ce nom en écho. Sur quoi elle s'arrêta, saisie, et elle cessa de fuir, et Beren vint à elle. Mais comme elle posait les yeux sur lui, le destin la prit, et elle fut amoureuse. Pourtant, elle se dégagea de son étreinte et disparut à sa vue à l'instant où le jour perçait. Lors, Beren tomba évanoui, comme terrassé d'un coup par le bonheur et la tristesse. Et il sombra dans le sommeil comme dans un gouffre d'ombre, et à son réveil, il se sentit froid comme la pierre, le cœur vide et esselé. Son esprit divaguait et tâtonnait, comme un homme soudain frappé de cécité, tentant de refermer ses doigts sur la lumière évanouie. Ainsi, il commença d'acquitter la pénible rançon du sort qui pesait sur lui. Mais Luthien aussi était captive de son sort. Et elle, immortelle, prit part à sa mortalité, et libre elle s'enferra dans ses chaînes, et sa détresse fut plus grande que pour aucun autre de l'Eldalier. Contre toutes ses attentes, elle revint à lui dans les ténèbres où il était assis, et il y a bien longtemps, dans le royaume caché, elle posa sa main dans la sienne. Dès lors, elle alla souvent le trouver, et ils marchèrent ensemble secrètement dans les bois, de printemps en été, et nul autre des enfants d'Ilúvatar ne connut pareille joie, si brève qu'elle fût. Mais Daeron le ménestrel aimait aussi Luthien, et il surprit sa rencontre avec Beren et la trahit auprès de Thingol. Lors le roi se mit en colère, car il aimait Luthien plus que toute autre chose au monde, la plaçant au-dessus de tous les princes des elfes, alors que les hommes mortels n'entraient même pas à son service. Il fit donc part à Luthien de son chagrin et son étonnement. Mais elle ne voulut rien dire avant qu'il lui fît le serment de ne pas tuer Beren ni de l'emprisonner. Mais il envoya ses serviteurs pour se saisir de lui et le conduire à Menegroth en tant que malfaiteur. Mais Luthien les devança et elle-même escorta Beren devant le trône de Thingol, comme on en userait avec un invité d'honneur. Lord Thingol contempla Beren avec mépris et colère. Mais Melian fut silencieuse.
« Qui es-tu ? » dit le roi. « Toi qui arrives ici en voleur et sans invitation, ose approcher de mon trône. »
Mais Beren, paralysé par la crainte, car la splendeur de Menegroth et la majesté de Thingol étaient sans égale, ne fit aucune réponse. Luthien parla donc, et elle dit «
C'est là Beren, fils de Barahir, seigneur des hommes,
ennemi acharné de Morgoth, dont les prouesses sont chantées aujourd'hui parmi les elfes.
« Laisse parler Beren, » dit Fingol. « Qu'as-tu à faire ici, malheureux mortel? Et pourquoi avoir quitté ta propre terre pour hanter celle-ci, interdite à ceux de ton espèce? Quelle raison peux-tu invoquer que mon pouvoir ne s'abatte sur toi, châtiment de ton insolence et de ta folie ?»
Lors, Beren leva les yeux et rencontra ceux de Lúthien, et son regard se posa aussi sur le visage de Méliane. Et il eut l'impression que les mots lui venaient à la bouche. La peur le quitta, et l'orgueil de la maison aînée des hommes lui revint. Et il dit « Mon sort, ô roi, m'a conduit ici à travers maints périls que peu même parmi les elfes oseraient affronter. Et j'ai trouvé ici une chose que je n'ai point cherchée. Mais l'ayant trouvée, je voudrais la garder toujours, car elle est au-dessus de tout l'or et l'argent du monde et surpasse tous les joyaux. Ni le roc, ni l'acier, ni les flammes de Morgoth, ni tous les pouvoirs des royaumes des elfes ne me priveront du trésor auquel j'aspire. Car Lúthien, votre fille, est la plus belle de tous les enfants d'Ilúvatar. » Alors un silence tomba sur la salle, car ceux qui se tenaient là étaient stupéfaits et atterrés, croyant que Beren serait abattu. Mais Fingol reprit lentement et il dit «
Tu as mérité la mort avec ces paroles, et tu la trouverais sur le champ, si je n'avais prêté serment dans la hâte, ce dont je me repens, vulgaire mortel, qui au royaume de Morgoth a appris les manières furtives, celles de ses espions et de ses esclaves. »
Lors Beren répondit « Vous pouvez me donner la mort, méritée ou non, mais de vous je n'accepterai ni le nom de vulgaire, ni celui d'espion, ni d'esclave. Par l'anneau de Felagund, qu'il remit à Barahir mon père sur le champ de bataille du Nord, ma maison n'a mérité ce genre de nom de la part d'aucun elfe, roi ou roturier. » Ces paroles étaient fières, et tous les regards se portèrent sur l'anneau, car il le brandit, et il y eut un scintillement de pierre verte ouvré par les Noldor en Valinor. Or cet anneau avait la forme de serpents jumeaux aux yeux d'émeraude, et leur chef se rencontrait sous une couronne de fleurs dorées que l'un portait et que l'autre dévorait. Tel était l'insigne de Finarfin et de sa maison. Lors Méliane se pencha auprès de Fingol et en un murmure lui conseilla de dompter sa colère. « Car ce n'est pas par toi que sera tué Beren, » dit-elle, « et son destin le mènera loin et le verra libre. Pourtant il est lié au tien. Prends garde. » Mais Fingol regarda Lúthien en silence et il se dit en son cœur
« De malheureux hommes !» Des enfants de petits barons et de rois éphémères, des gens de cette espèce peuvent-ils poser la main sur toi et vivre tout de même ? »
Puis rompant le silence, il dit
« Je vois bien l'anneau, fils de Barahir, et je vois que tu es fier et que tu te crois fort. Mais les prouesses d'un père, quand bien même il eût été à mon service, ne sauraient obtenir la fille de Fingol et Méliane. Écoute bien, moi aussi j'aspire à un trésor qui m'est refusé. Car le roc et l'acier et les flammes de Morgoth gardent le joyau que je convoite contre tous les pouvoirs des royaumes des elfes. Et voilà que j'entends que de tels obstacles ne te font pas peur. Alors va, passe ton chemin, rapporte-moi dans ta main un Silmaril de la couronne de Morgoth. Et là, si elle le veut, Lúthien placera sa main dans la tienne. Alors mon joyau sera tien. Et bien que le sort d'Arda soit contenu dans les Silmarils, tu me tiendras pour généreux. »
Il scella ainsi le destin du Doriath et attira sur lui la malédiction de Mandos. Et ceux qui entendirent ces paroles comprirent que Fingol entendait préserver son serment tout en envoyant Beren à la mort. Car il savait que pas même le pouvoir de tous les Noldor réunis au temps du siège n'avait permis d'entrevoir la moindre lueur des Silmarils de Fëanor. Car ils étaient sertis dans la couronne de fer et jalousement gardés, plus que tout autre trésor d'Angband. Défendus par des balrogs, des épées innombrables, par des barreaux de fer, des murs infranchissables et par la sombre majesté de Morgoth. Mais Beren rit. « Les rois des elfes, dit-il, vendent leurs filles à bien vil prix, pour des gemmes et des œuvres d'artisans. Mais si c'est là votre désir, Fingol, je l'exaucerai. Et quand nous nous reverrons, ma main renfermera un Silmaril de la couronne de fer, car ce n'est pas la dernière fois que Beren, fils de Barahir, se tient devant vous. » Il regarda alors dans les yeux de Méliane qui ne dit mot, et il dit adieu à Lúthien Tinúviel, s'inclina devant Fingol et Méliane, puis écarta les gardes qui l'entouraient et s'en fut, seul, des cavernes de Menegroth. Lors Méliane parla enfin, et elle dit à Fingol, « Que d'ingénieux conseils te sont venus, ô roi, mais ils iront à mal pour toi si mes yeux peuvent encore voir que Beren échoue dans sa mission ou qu'il y réussisse. Car soit tu as condamné ta fille, soit tu t'es condamné toi-même. Et voici le Doriath entraîné dans le sort d'un plus grand royaume. » Mais Fingol répondit,
« Je ne vends pas aux elfes ou aux hommes ceux que j'aime et que je chéris par-dessus tout. Et s'il y avait eu à craindre ou à espérer que Beren revint un jour à Menegroth, il n'aurait plus jamais contemplé la lumière des cieux malgré mon serment, bien que je l'eusse juré. »
Mais Lúthien demeura silencieuse, et dès lors, elle ne chanta jamais plus au Doriath. Un silence inquiet tomba sur la forêt, et les ombres s'allongèrent au royaume de Fingol. Il est dit dans le lait de Lethian que Beren traversa le Doriath sans encombre et finit par gagner les environs des mares crépusculaires et les marais du Cilion. Et, quittant les terres de Fingol, il gravit les collines au-dessus des chutes du Cilion, où le fleuve rugissant plongeait sous terre. Du haut de ces collines, il regarda vers l'ouest, et à travers les brumes et les pluies qui les enveloppaient, il contempla Talath d'Irnen, la plaine gardée, entre le Cilion et le Narog. Et au-delà, dans le lointain, il discerna les hauteurs de Taur en Pharoth, surplombant Nargothrond. Et se voyant dépourvu de tout, sans espoir ni conseil, c'est de ce côté qu'il tourna ses pas. Les elfes de Nargothrond exerçaient sur toute cette plaine une surveillance constante, et chacune des collines qu'il abordait était couronnée de tours invisibles au regard, et des archers d'une grande finesse allaient et venaient secrètement dans tous ses champs et ses bois. Leurs flèches étaient sûres autant que mortelles, et rien n'entrait là-bas contre leur gré. Aussi, avant que Beren eût beaucoup approché, ils s'avisèrent de sa présence, et la mort le guettait. Mais conscient du danger qu'il courait, il allait brandissant l'anneau de Felagund, et s'il ne voyait pas âme qui vive à cause de la ruse des chasseurs, il se sentait observé, et il s'écria à maintes reprises, « Je suis Beren, fils de Barahir, ami de Felagund. Conduisez-moi au roi. » Aussi les chasseurs ne le tuèrent point, mais ils s'assemblèrent pour lui barrer la route et le sommèrent de s'arrêter. Apercevant l'anneau toutefois, ils s'inclinèrent devant lui, bien qu'il fût dans un triste état, hagard et harassé. Et ils le menèrent au nord et à l'ouest, marchant de nuit par peur de révéler les chemins empruntés. Car il n'y avait alors ni gué ni pont sur le torrent du Narog devant les portes de Nargothrond. Mais plus loin au nord, où le Ginglith rencontrait le Narog, les eaux étaient moins hautes, et passant à gué avant de revenir au sud à la lueur de la lune, les elfes conduisirent Beren au sombre portail de leur demeure cachée. C'est ainsi que Beren se tint devant le roi Finrod Felagund, et Felagund le reconnut sans qu'il eût fallu un anneau pour se rappeler Barahir et les gens de Beor. Ils s'assirent derrière porte close, et Beren lui raconta la mort de Barahir et tout ce qui lui était arrivé au Doriath. Et il pleura, se remémorant Lúthien et leur joie d'être ensemble. Mais Felagund fut surpris et troublé par son récit, et il sut que le serment qu'il avait juré revenait pour lui prendre la vie, comme il l'avait prédit à Galadriel longtemps auparavant. Il parla alors à Beren, le cœur lourd.
« Il est évident que Fingol souhaite votre mort. Mais ce destin fatal semble outrepasser ses desseins, et il est probable que le serment de Fëanor soit de nouveau à l'œuvre. Car les Silmarils sont sous l'empire d'une promesse maudite, et qui ose, ne serait-ce qu'en professer le désir, réveille un pouvoir terrible. Et les fils de Fëanor auraient tôt fait de conduire tous les royaumes des elfes à la ruine, plutôt que de souffrir qu'aucun autre prie ou déteint un Silmaril, car le serment les y contraint. Et voici que Kelegorm et Colophin se sont installés en mes halles. Et si je suis le roi, moi, fils de Finalfin, eux ont acquis un grand pouvoir dans le royaume, et ils ont ici bon nombre des leurs. Ils m'ont témoigné la plus grande amitié en toutes circonstances, mais je crains qu'ils ne vous témoignent aucun amour ni aucune pitié si votre quête est connue. Quant à moi, je reste lié par mon propre serment. Ainsi, nous voilà tous pris au piège. »
Lors, le roi Felagund s'adressa à son peuple, rappelant les exploits de Barahir ainsi que sa promesse. Et il annonça qu'il lui incombait d'assister le fils de Barahir dans sa quête, et il sollicita l'aide de ses chefs. Lors Kelegorm se dressa parmi la foule, et tirant son épée, il s'écria
« Fût-il ami ou ennemi, fût-il démon de Morgoth, elfe ou enfant des hommes, ou de quelque autre espèce vivant en Arda ?» Aucun amour, ni aucune loi, ni ligue infernale, ni puissance des Valar, ni ruse de sorcier, ne le protégera de la haine acharnée des fils de Fëanor s'il trouve ou prend un Silmaril et le garde en sa possession. Car nous revendiquons les Silmaril pour nous seuls, jusqu'à la fin du monde. »
Il lui vint beaucoup d'autres paroles, aussi fortes que jadis celles de son père à Tirion, quand pour la première fois il poussa les Noldor à la révolte. Et après Kelegorm parla Curufin, d'un ton plus posé, mais non moins persuasif, évoquant dans l'esprit des elfes une vision de guerre et la ruine de Nargothrond. Il fit naître en leur cœur une peur si grande qu'aucun elfe de ce royaume, jusqu'à l'époque de Turin, n'alla plus jamais ouvertement au combat, préférant la ruse et l'embuscade, la magie, les traits empoisonnés, poursuivant tous les étrangers, oubliant les liens du sang. Ainsi abdiquèrent-ils la liberté et la valeur des elfes d'autrefois, et leur domaine s'assombrit. Et ils chuchotaient à présent que le fils de Finalfin n'était pas un Vala pour prétendre les commander, et ils se détournèrent de lui. Mais la malédiction de Mandos s'abattit sur les deux frères, et de sombres desseins prirent forme en leur cœur. Et ils projetèrent d'envoyer Felagund à la mort, et d'usurper peut-être le trône de Nargothrond, car ils étaient de la branche aînée des princes des Noldor. Et Felagund, voyant qu'il était seul, retira de son chef la couronne d'argent de Nargothrond et la jeta à ses pieds, disant
« Vous pouvez trahir les serments de féauté que vous m'avez faits, mais je dois tenir le mien. Toutefois, s'il en est encore qui n'ont pas succombé à la malédiction qui pèse sur nous, il s'en trouvera au moins quelques-uns pour me suivre. » Et je ne partirai pas d'ici comme un mendiant qu'on jette à la porte. »
10 d'entre eux prirent son parti, et leur chef, qui se nommait Edrahil, se pencha pour ramasser la couronne et demanda qu'elle fût remise à un intendant jusqu'au retour de Felagund. «
Car vous êtes toujours mon roi, » dit-il, « et le leur, quoi qu'il advienne. »
Lors, Felagund remit la couronne de Nargothrond à son frère Orodreth, afin qu'il gouverne à sa place. Et Kelegorm et Curufin ne dirent mot, mais ils sourirent et quittèrent le palais. Par un soir d'automne, Felagund et Beren se mirent en route avec leurs 10 compagnons, et ils suivirent le Narog jusqu'à sa source aux chutes d'Ivrin. Au pied des montagnes ombreuses, ils tombèrent sur une compagnie d'orques, et à la nuit, ils assaillirent leur campement et les exterminèrent. Et ils saisirent leurs armes et leur équipement. Grâce au pouvoir de Felagund, leur forme et leur visage prirent une semblance d'orque, et ce déguisement les amena loin au nord, jusque dans le passage de l'ouest, entre les Eredwethrin et les hauteurs du Taur Nufuin. Mais Sauron, dans sa tour, sentit leur présence, et un doute le saisit, car ils semblaient pressés, et ils ne s'arrêtèrent pas pour rendre compte de leurs faits et gestes, comme il était de rigueur pour tous les serviteurs de Morgoth qui passaient par là. Il les fit donc intercepter et emmener devant lui. Ainsi s'ouvrit le combat entre Sauron et Felagund, qui est illustre. Car Felagund lutta contre Sauron avec des champs de puissance, et le roi déploya un très grand pouvoir. Mais Sauron eut le dessus, comme il est dit dans le lait de Leifian. Il chante une sorcellerie qui fait parler par fourberie et sait briser chaque serment. Alors Felagund, chancelant, entonne un chant de résistance. Il bataille dans chaque stance. Droit et secret comme une tour, de foi et féauté discours, de métamorphose et de ruse contre les pièges qui abusent, ouvrant les portes des prisons. Ainsi s'opposent leurs chansons et se voient sourdre puis noyer les mots de magie imprégnés qu'à l'ombre Félagonde adresse, usant des charmes d'elfinesse. C'est la rumeur d'un autre monde, un lait plus vieux que Nargothrond, trille d'oiseaux, profond soupir, des flots font leurs tympans frémir, qui sur le doux sable de perles, en terre des elfes déferle. Alors l'ombre se réunit, amène en Valinor la nuit, le sang afflue à l'océan, dans l'assaut des grands vaisseaux blancs. Les Noldor tuent les cavaliers, de l'écume sur tous les quais. À leur havre sous les étoiles, ils arrachent les blanches voiles. Le vent tombe, les corbeaux fuient. Dans son détroit, la glace crie. Les prisonniers d'Angband gémissent. Les flammes de l'enfer rugissent. Le tonnerre ébranle la nuée. Félagonde à terre est tombée. Alors Sauron les dépouilla de leurs fausses apparences et ils se tinrent devant lui apeurés et mis à nu. Mais s'ils savaient désormais leur vraie nature, Sauron ne put découvrir leur nom ni leur dessein. Il les fit donc jeter dans une basse fosse, noire et silencieuse, et leur promit une mort cruelle si l'un d'entre eux ne s'abaissait à lui avouer la vérité. De temps à autre, il voyait deux yeux s'allumer dans les ténèbres, et un loup-garou dévorait l'un des compagnons. Mais aucun ne trahit son seigneur. Au moment où Beren était jeté dans la fosse, un sentiment d'horreur envahit le cœur de Lúthien. Et lorsqu'elle chercha conseil auprès de Méliane, elle sut que Beren gisait dans les cachots de Tol Ingauroth, sans espoir de secours. Alors Lúthien, voyant qu'il n'était nul autre au monde pour lui venir en aide, résolut de fuir le Doriath pour aller elle-même à sa rescousse. Mais elle sollicita l'aide de Daeron, qui trahit son secret au roi. Lors, Thingol fut atterré et stupéfait. Et comme il ne voulait priver Lúthien de la lumière des cieux, de crainte qu'elle ne s'évanouisse et disparaisse, mais désirait tout de même la retenir, il fit construire une maison dont elle ne pourrait s'échapper en aucun cas. Non loin des portes de Menegroth, se dressait le plus grand des arbres dans toute la forêt de Neldoreth. Et c'était là une forêt de hêtres qui couvrait toute la moitié nord du royaume. Ce grand hêtre se nommait Irilorn, et il comptait trois fûts de même taille, d'une écorce lisse et d'un port altier. Aucune branche n'en sortait avant qu'ils fussent montés à grande hauteur. Tout là-haut, dans la ramure de Irilorn, fut construite une maison de bois où l'on fit grimper Lúthien. Et les échelles furent retirées et placées sous bonne garde, sauf quand les serviteurs de Thingol venaient lui porter ce dont elle pouvait avoir besoin. Dans le lait de Lethian, il est dit comment elle s'échappa de la maison au sommet de Irilorn, car elle usa de ses pouvoirs d'enchanteresse et fit pousser ses cheveux très longs. Et elle en tissa un vêtement noir qui enveloppait sa beauté comme une ombre et dont le charme invitait au sommeil. Des mèches restantes, elle tressa une corde qu'elle fit pendre à sa fenêtre, et tandis que l'extrémité se balançait au-dessus des gardes assis sous l'arbre, ils se trouvèrent plongés dans un profond sommeil. Lúthien descendit alors de sa prison, revêtue de sa chape ombreuse, elle éluda tous les regards et disparut du Doriath. Celegorm et Curufin se trouvaient être partis chasser sur la plaine gardée, et la raison en était que Sauron, suspectant quelque chose, avait envoyé de nombreux loups dans les terres des elfes. Ils prirent donc leurs chiens de meute et s'enfuirent à cheval. Et ils se disaient que peut-être, ils recevraient aussi des nouvelles du roi Félagund avant leur retour. Or, le chef de la meute de Celegorm se nommait Uwan. Il était non pas né en terre du milieu, mais issu du royaume béni. Car Oromé l'avait offert à Celegorm longtemps auparavant, en Valinor, où il répondait au corps de son maître avant la venue du mal. Uwan accompagna Celegorm dans l'exil et lui resta fidèle. Lui aussi avait donc part au malheureux destin des Noldor, et il était dit qu'il rencontrerait la mort, mais pas avant de s'être mesuré au plus grand loup qui eût jamais parcouru la terre. Ce fut Uwan qui trouva Lúthien en train de fuir comme une ombre surprise par le jour sous les arbres, tandis que Celegorm et Curufin faisaient halte à la lisière occidentale du Doriath. car rien n'échappait à la vue ni au flair de Houan. Nul enchantement ne le pouvait leurrer, et il ne dormait point ni de nuit ni de jour. Il l'amena à Kelegorm, et Lúthien, lorsqu'elle sut que c'était un prince d'Enoldor et un ennemi de Morgoth, se réjouit. Et elle se découvrit, jetant son manteau. Si grande fut sa beauté soudain révélée au grand jour, que Kelegorm s'éprit aussitôt d'elle. Mais il la séduit avec de belles paroles et lui promit l'aide dont elle avait besoin, à condition de rentrer avec lui à Nargothrond. Il ne laissa voir d'aucune manière qu'il avait déjà eu vent de Beren et de la quête qu'elle lui exposa, ni que cette affaire le concernait de près. Abandonnant la chasse, ils rentrèrent ainsi à Nargothrond, et Lúthien se sut trahi. Car ils la mirent sous bonne garde et lui prirent son manteau, et il lui fut interdit de passer les portes et de s'adresser à quiconque, hormis aux deux frères, Kelegorm et Curufin. Car dès lors qu'il pensait Beren et Felagund prisonniers sans espoir de secours, il se proposait de laisser périr le roi, de garder Lúthien et d'obliger Fingal à donner sa main à Kelegorm. Ainsi, ils consolideraient leur pouvoir et deviendraient les plus puissants des princes d'Enoldor. Et ils n'entendaient pas reprendre les Silmarils par la ruse ou la guerre, ni permettre que quiconque le fît à leur place, avant que toute la puissance des royaumes des elfes fût entre leurs mains. Orodreth était impuissant à leur résister, car ils avaient séduit le cœur des gens de Nargothrond, et Kelegorm envoya des messagers à Fingal pour lui signifier sa requête. Mais Uan, le chien de chasse, avait le cœur fidèle, et l'amour de Lúthien l'avait saisi dès la première heure, et il s'affligeait de la voir captive. Il venait donc souvent à sa chambre, et la nuit, il se couchait à sa porte, car il sentait que le mal s'était insinué à Nargothrond. Lúthien se confiait souvent à Uan dans sa solitude, lui parlant de Beren, qui était l'ami de tous les oiseaux et bêtes qui ne servaient pas à Morgoth. Et Uan saisissait parfaitement ce qu'elle disait, car il comprenait tous ceux qui parlaient avec la voix, mais il ne lui fut donné que trois fois de s'exprimer en mots avant de mourir. Or, Uan imagina un plan pour venir en aide à Lúthien, et une nuit, il vint la trouver, lui apportant son manteau, et il parla pour la première fois afin de la guider. Puis, il l'amena hors de Nargothrond par des passages secrets, et ils firent ensemble vers le nord. Et Uan ravala son orgueil et permit à Lúthien de le monter comme un coursier, ainsi que le faisaient parfois les orques sur de grands loups. Ils allèrent donc à vive allure, car Uan était un coureur rapide et infatigable. Beren et Felagund gisaient dans les cachots de Sauron, et voilà que tous leurs compagnons étaient morts. Mais Sauron entendait préserver Felagund jusqu'à la fin, car il savait qu'il tenait là un Noldo très puissant et d'une grande sagesse, et croyait que le secret de leur mission résidait en sa personne. Mais quand le loup vint pour Beren, Felagund déploya toute sa puissance et brisa ses liens. Et il lutta contre le loup-garou et le tua à l'aide de ses mains et de ses dents. Mais lui-même fut blessé à mort. Lors, il s'adressa à Beren, disant « Je m'en vais à présent. » Trouver le long repos qui m'attend dans les halles intemporelles, par-delà les mers et les montagnes d'Aman. Il faudra longtemps pour que l'on me revoie parmi les Noldor, et il se peut que nos chemins ne se croisent jamais de nouveau, dans la vie ou dans la mort, car nos deux races ont un destin à part. Adieu. » Il mourut alors dans les ténèbres à Tol Ingauroth, sous la grande tour qu'il avait lui-même construite. Ainsi le roi Finrod Felagund, le plus beau et le mieux aimé de la maison de Finwë, accomplit-il son serment. Mais Beren pleurait à son côté, au désespoir. C'est alors qu'arriva Lúthien, et debout sur le pont qui menait à l'île de Sauron, elle chanta un air capable de passer les murs de pierre. Beren l'entendit, et il crut rêver, car les étoiles brillaient au-dessus de lui et des rossignols chantaient dans les arbres. Et en réponse, il entonna un chant de défi qu'il avait fait en l'honneur des sept étoiles, la faucille des Valar que Varda suspendit dans le nord, signe de la chute de Morgoth. Puis ses forces le quittèrent et il sombra dans les ténèbres. Mais Luthienne entendit sa voix lui répondre, et elle chanta alors un chant plus puissant encore. Les loups hurlèrent et l'île trembla. Sauron se dressa dans la haute tour, drapé dans sa noire pensée. Mais il sourit en l'entendant, car il savait que c'était la fille de Méliane. L'illustre beauté de Luthienne et l'enchantement de sa voix étaient connus depuis longtemps au-delà du Doriath, et il résolut de la faire prisonnière et de la livrer au pouvoir de Morgoth, car sa récompense serait très grande. Il envoya donc un loup sur le pont. Uwan le tua sans faire de bruit. Sauron en envoya d'autres, un par un. Et un par un, Uwan les saisit à la gorge et les tua. Lors, Sauron envoya Draugluin, une bête terrible et un mâle ancien, seigneur et père des loups-garous d'Angband. Sa force était grande, et le combat entre Uwan et Draugluin fut long et acharné. Draugluin finit néanmoins par s'échapper, et il se réfugia dans la tour et mourut au pied de Sauron. Et de son dernier souffle, il dit à son maître « Uwan est là ». Or Sauron savait très bien, comme tous ceux de ce pays, quel était le sort prédit pour le chien du Valinor, et il lui vint à l'idée de l'accomplir lui-même. Il prit donc la forme d'un loup-garou, le plus puissant qui eût jamais parcouru la terre, et il sortit pour reprendre le pont. Son approche inspirait une telle horreur que Uwan se jeta de côté. Puis Sauron se précipita sur Luthienne, et elle pâma devant l'éclat maléfique de ses yeux et l'horrible relent de son haleine. Mais au moment où elle tombait presque sous lui, elle jeta un pan de son manteau noir devant ses yeux, et il trébucha, pris d'une somnolence passagère. Uwan bondit alors. S'ensuivit la bataille de Uwan et de Sauron loup, et les collines retentirent de leurs hurlements et aboiements, et les guetteurs des murailles des Eredwethrin, de l'autre côté de la vallée, l'entendirent au loin et tremblèrent d'effroi. Mais nul sortilège, ni sorcellerie, ni croc, ni venin, ni artifice du diable, ni bête sanguinaire, ne pouvait venir à bout de Uwan du Valinor. Et il saisit son adversaire à la gorge et le cloua au sol. Lors, Sauron changea de forme. De loup, il se fit serpent, puis monstre, avant de reprendre sa forme coutumière. Mais il ne pouvait se libérer de l'étau de Uwan sans abandonner entièrement son corps. Avant que son esprit infâme ne quittât sa sombre demeure, Luthienne se tint devant lui et lui dit que son vêtement de chair lui serait retiré, son fantôme tremblant renvoyé à Morgoth, et elle déclara « Là, à tout jamais ton être dénudé sera livré au tourment de son mépris, dévoré par son regard, à moins que tu ne me cèdes la maîtrise de ta tour. » Lors Sauron capitula, et Luthienne se rendit maîtresse de l'île et de tout ce qui s'y trouvait, et Uwan le relâcha. Et aussitôt il prit la forme d'un vampire, aussi grand qu'un nuage noir voilant la lune, et il s'enfuit, maculant les arbres du sang qui dégoulinait de sa gorge. Et il vint à Taur Nufuin, où il demeura, répandant partout l'horreur. Or Luthienne se tint sur le pont et déclara son pouvoir. Et le sortilège fut rompu qui scellait la pierre à la pierre, et les portes furent enfoncées, les murs jetés bas et les fosses mises au jour. Et de nombreux prisonniers et esclaves s'avancèrent, ahuris et craintifs, dans le pâle clair de lune, et ils s'abritaient les yeux, car ils étaient longtemps restés dans les ténèbres de Sauron. Mais Beren ne vint pas. Uwan et Luthienne le cherchèrent donc partout dans l'île, et Luthienne le trouva allongé auprès de Felagund. Sa détresse était telle qu'il demeurait inerte, et il ne l'entendit pas venir. Puis, le croyant déjà mort, elle passa ses bras autour de lui et sombra dans une noire torpeur. Mais Beren, remontant à la lumière, depuis les fosses du désespoir, la releva, et il posa de nouveau les yeux sur elle, et elle sur lui. Et le jour se leva au-dessus des collines sombres et éclaira leur visage. Ils ensevelirent le corps de Felagund au sommet de son île, de nouveau pur. Et la verte sépulture de Finrod, fils de Finalfin, le plus beau de tous les princes des elfes, demeura inviolée jusqu'au jour où, lors du grand bouleversement des terres, elle sombra sous les mers destructrices. Mais Finrod marche en compagnie de son père Finalfin sous les arbres d'Eldamar. Or, Beren et Lúthien Tinúviel, de nouveau libres, se promenèrent un temps à travers bois, retrouvant leur joie perdue. Et quand vint l'hiver, il ne les toucha pas, car les fleurs s'attardaient partout où elles passaient, et les oiseaux chantaient sous les collines enneigées. Mais Uann, toujours fidèle, alla retrouver son maître Kelegorm, bien que leur amour fût diminué. Le désordre régnait à Nargothrond, car de nombreux elfes, jusque-là prisonniers dans l'île de Sauron, y rentrèrent. Et il s'éleva une clameur parmi eux qu'aucun discours de Kelegorm n'eût apaisé. Ils regrettaient amèrement la perte de leur roi Felagund, disant qu'une jeune fille avait réussi là où les fils de Fëanor n'avaient jamais osé. Mais beaucoup avaient le sentiment que la traîtrise et non la peur avaient présidé aux actions de Kelegorm et Curufin. Le cœur des gens de Nargothrond fut ainsi libéré de leur emprise et de nouveau acquis à la maison de Finalfin. Et ils suivirent Orodreth. Mais celui-ci leur interdit d'exécuter les deux frères, comme certains le souhaitaient, car répandre un sang fraternel les eût soumis encore davantage à la malédiction de Mandos. Il promit toutefois que Kelegorm et Curufin ne trouveraient ni pain ni repos dans son royaume, et jura qu'il n'y aurait guère d'amitié dorénavant entre Nargothrond et les fils de Fëanor.
« Qu'il en soit ainsi !» dit Kelegorm avec un éclair menaçant dans les yeux.
Mais Curufin sourit. Puis ils montèrent à cheval et partirent comme des flammes rejoindre leurs parents dans l'Est s'ils le pouvaient. Mais nul ne voulut les accompagner, pas même ceux de leur propre maison, car tous sentaient que la malédiction pesait lourdement sur les frères et que le mal les pourchassait. À cette occasion, Celebrimbor, fils de Curufin, répudia les actions de son père et demeura à Nargothrond, cependant que Uann continuait de suivre le cheval de Kelegorm, son maître. Ils chevauchèrent vers le nord, car ils avaient décidé de couper à travers le Dimbar et le long des marches septentrionales du Doriath dans leur hâte de rejoindre Imring, où demeurait leur frère Maedros. Et en se dépêchant, ils avaient espoir de survivre à cette route, car elle serrait les confins du Doriath, évitant Nandungortheb et la lointaine menace des montagnes de la Terreur. Or, il est dit que les errances de Beren et Lúthien les menèrent dans la forêt de Brethil et enfin aux frontières du Doriath. Lors Beren songea à sa promesse, et Lúthien, ayant regagné la sécurité de son royaume, il résolut à contre-cœur de partir de nouveau. Mais elle refusa de se séparer de lui une fois de plus, disant « Tu dois choisir, Beren, entre l'une ou l'autre voie. Abandonner ta quête et ton serment, et te résigner à une vie d'errance sur cette terre, ou tenir parole et aller défier la puissance ténébreuse sur son trône. Mais où que tu ailles, j'irai avec toi, et notre destin sera le même. »
Tandis qu'il se promenait et s'entretenait de ces choses, oublieux du monde extérieur, Kelegorm et Curufin arrivèrent au galop, se hâtant à travers la forêt. Et les frères les aperçurent de loin et les reconnurent. Lors Kelegorm tourna bride et fonça sur Beren pour le renverser. Mais Curufin fit un crochet et se pencha pour cueillir Lúthien, qu'il hissa sans effort sur sa selle, car c'était un formidable cavalier. Alors d'un seul bond, Beren évita Kelegorm et retomba sur le cheval de Curufin qui passait à toute allure. Et le sceau de Beren est resté illustre chez les hommes et les elfes. Il surgit derrière Curufin, l'agrippa à la gorge et le renversa, et tous deux furent jetés à terre. Le cheval se cabra et tomba, mais Lúthien fut projeté de côté et resta étendu sur l'herbe. Lors, Beren voulut étrangler Curufin, mais la mort le guettait, car Kelegorm revint à la charge armé d'une lance. En cet instant, Uann s'affranchit du service de Kelegorm et se jeta sur lui, si bien que son coursier vira brusquement et refusa d'approcher Beren par peur de ce grand chien. Kelegorm maudit le chien et le coursier de même, mais Uann demeura inflexible. Alors Lúthien se releva pour empêcher que Curufin soit tué. Mais Beren le dépouilla de ses armes et de son équipement, et il prit son couteau, Angrist. Celui-ci pendait nu à son côté, forgé par Telkar de Nogrod, et il entaillait le fer comme si c'eût été du bois vert. Alors Beren releva Curufin et le repoussa, et il lui ordonna de retourner à pied chez ses nobles parents, qui lui apprennent à exercer sa bravoure à de meilleurs usages. « Ton cheval, dit-il, je le garde pour Luthien, et il peut s'estimer heureux d'être délivré d'un tel maître. » Lors Curufin maudit Beren sous les nuages et sous le ciel. « Va-t'en donc, dit-il, et que ta mort soit rapide et cruelle. » Kelegorm le prit en croupe, puis ils firent mine de partir. Et Beren se détourna sans prêter attention à ce qu'il disait. Mais Curufin, plein de honte et de rancœur, saisit l'arc de Kelegorm et, en s'éloignant, se retourna pour tirer. Sa flèche visait Luthien. Uwan bondit et l'attrapa entre ses mâchoires. Mais Curufin tira de nouveau, et Beren se jeta devant Luthien et fut frappé en pleine poitrine. Il est dit que Uwan poursuivit les fils de Fëanor qui prirent peur et s'enfuirent. Et à son retour, il rapporta à Luthien une herbe de la forêt. Elle prit ses feuilles et étancha la blessure de Beren et parvint à le guérir grâce à ses dons et son amour. Et ainsi rentrèrent-ils enfin au Doriath. Là, Beren, tiraillé entre son serment et son amour pour Luthien, et la sachant désormais en sécurité, se leva un matin avant l'aube et la confia à la garde de Uwan. Puis, dans une grande détresse, il la laissa tandis qu'elle dormait encore dans l'herbe. Il monta en selle et repartit à toute bride vers le nord jusqu'à la passe du Sirion. Et aux environs de Tar Nufuin, il regarda par-delà le désert d'Anfoguith et discerna au loin les cimes du Thangorodrim. Là, il renvoya le cheval de Curufin et le pria d'oublier la peur et la servitude et de courir librement sur l'herbe verte dans les terres du Sirion. Désormais seul, parvenu au seuil de l'ultime épreuve, il composa le chant de la séparation en hommage à Luthien et aux lumières des cieux, car il croyait devoir renoncer et à l'amour et à la lumière. Voici une partie de son chant. Adieu, ô terre et ciel béni, là où jadis elle a dormi, où fut cet être sans pareil, dessous la lune et le soleil, Luthien Tinuviel, que l'on chante à langue de miel. Si tout s'effondre, si tout choit, remonte au primitif magma, si tout revient au vieil abîme, il a été bon que s'anime, aube, soir, terre et océan, afin que soit Luthien un temps. Et il chantait tout haut, sans se soucier de qui pouvait l'entendre, car son sort était sans espoir, et il ne cherchait pas à s'y soustraire. Mais Luthien entendit son chant, et chanta pour lui en réponse, surgissant des bois à l'improviste. Car Uwan avait de nouveau consenti à la porter, et s'était lancé à toute vitesse sur la piste de Beren. Longtemps il s'était demandé en son cœur, quelle ruse il pouvait concevoir afin d'alléger le péril de ces deux êtres qu'il aimait. Il fit donc un détour par l'île de Sauron en remontant au nord, et il y prit l'affreuse peau de loup de Draugluin et la mante de chauve-souris de Thuringwefil. Messagère de Sauron, elle avait coutume de voler à Angband sous la forme d'un vampire. Ses grandes ailes digitées, à chaque jointure, se terminaient par une griffe de fer. Revêtus de ces horribles peaux, Uwan et Luthien étaient passés en trombe dans le Tar Nufuin, semant la terreur sur leur passage. Beren fut consterné de les voir arriver, et il se demanda ce qui se passait car il avait entendu la voix de Tinuviel et croyait à présent que c'était un fantasme destiné à le piéger. Mais ils s'arrêtèrent et rejetèrent leur déguisement, et Luthien courut vers lui. Ainsi Beren et Luthien furent-ils réunis une fois de plus entre désert et forêt. Beren resta un moment silencieux, plein de contentement. Mais bientôt il revint à la charge et voulut dissuader Luthien de continuer. « Trois fois maudit soit mon serment devant Thingol, dit-il. J'eus préféré qu'il me tue à Menegroth plutôt que de t'entraîner dans l'ombre de Morgoth. » Alors Uwan parla pour la deuxième fois. Et il prodigua ce conseil à Beren, disant «
Tu ne peux plus sauver Luthien de l'ombre de la mort, car à cause de son amour, elle y est désormais sujette. Tu peux te détourner du sort et la conduire en exil, et chercher vainement la paix tant que tu seras en vie. Mais si tu ne renies pas ton destin, ou bien Luthien, laissée à elle-même, devra certainement mourir seule, ou bien elle devra affronter avec toi le sort qui t'attend, sans espoir, mais sans certitude. Je ne puis te conseiller davantage, ni t'accompagner plus avant. Mais mon cœur me dit que ce que vous trouverez à la porte, je le verrai aussi. Tout le reste m'est obscur. Il se peut néanmoins que nos trois chemins mènent au Doriath, et nous pourrions nous revoir avant la fin. Lors, Beren comprit que Luthien ne pouvait être affranchi du destin qui les liait tous deux, et il ne chercha plus à la dissuader. Sur le conseil de Uan et grâce au pouvoir de Luthien, il revêtit la peau de Draugwyn et elle la mante ailée de Thuringwefil. Beren avait tout l'air d'un loup-garou, sinon que dans ses yeux brillait un esprit certes redoutable, mais pur. Et son regard se figea d'horreur lorsqu'il se vit flanqué d'une bête aux allures de chauve-souris, dressée sur ses ailes plissées et griffues. Puis, hurlant sous la lune, il descendit la colline à grands bonds, tandis que la chauve-souris voletait et tournoyait au-dessus de lui. Ils éludèrent tous les dangers avant d'arriver, avec sur leur dos la poussière de leur long et éreintant parcours, à la funeste vallée qui s'étendait aux portes d'Angband. Des crevasses noires béaient de chaque côté de la route, d'où montaient des formes semblables à des serpents entortillés. De part et d'autre, les premiers escarpements s'élevaient comme des remparts où perchaient des charognards aux cris sinistres. Devant eux se dressait l'imprenable porte, une grande arche, large et ténébreuse, au pied de la montagne, surmontée d'un précipice de 1000 pieds. Là, un grand trouble les prit, car à la porte se trouvait un gardien dont nul n'avait encore entendu parler. La rumeur d'un dessein inconnu, là-bas parmi les princes des elfes, était venue aux oreilles de Morgoth, et toute la forêt retentissait des aboiements de Uan, le grand chien de guerre, qu'autrefois les Valar avaient lâché. Lors Morgoth se rappela le destin de Uan, et il choisit un descendant de la race de Draugwyn. Et de sa main, il le nourrit de chair vivante, et investit en lui de son pouvoir. Très vite, le loup grandit, jusqu'à ne plus pouvoir rentrer dans aucun antre, alors il resta couché, énorme et affamé, au pied de Morgoth. Là, la flamme et le tourment de l'enfer entrèrent en lui, et il fut possédé d'un esprit dévorant qui le torturait et l'animait d'une force terrible. Karkaroth, la gueule rouge, est le nom que lui donnent les récits de ce temps, et Anfauglir, les mâchoires de la soif. Et Morgoth lui dit de s'allonger devant les portes d'Angband, toujours de veille, au cas où Uan viendrait. Or, Karkaroth les aperçut de loin, et un doute se fit dans son esprit, car on savait depuis longtemps à Angband que Draugwyn était mort. Ainsi, lorsqu'ils s'avancèrent, il leur refusa leur passage et leur fit signe de s'arrêter. Et il les approcha d'un air menaçant, flairant quelque chose d'étrange autour de leur personne. Mais soudain un pouvoir mystérieux, hérité anciennement de la race divine, s'empara de Luthien, et rejetant son infâme vêtement, elle se dressa, si petite, devant le formidable Karkaroth, mais lumineuse et terrible. Levant une main, elle lui ordonna de dormir, clamant « Oh, esprit né du malheur, abandonne-toi à la nuit et oublie un temps le terrible fardeau de la vie. » Et Karkaroth fut terrassé, comme frappé par la foudre. Lors, Beren et Luthien passèrent la porte et descendirent le dédale d'escalier. Et ensemble, ils accomplirent le plus illustre exploit jamais tenté par des elfes ou des hommes. Car ils parvinrent au siège de Morgoth, dans sa dernière retraite, une salle que l'horreur soutenait, que le feu éclairait, pleine d'instruments de torture et de mort. Là, Beren, dans son habit de loup, se glissa furtivement sous son trône, mais Luthien fut dépouillé de sa fausse semblance par la volonté de Morgoth, et il dirigea son regard sur elle.
elle ne succomba pas au maléfice de ses yeux, et elle se nomma de son vrai nom, et proposa de chanter pour lui à la manière d'un ménestrel. Lors, Morgoth, voyant sa beauté, conçut en lui-même une infâme convoitise et un dessein plus noir que tous ceux qui étaient venus en son cœur depuis qu'il avait fui le Valinor. Ainsi fut-il pris par sa propre malice, car il l'observa un moment, la laissant libre de ses mouvements, avec un plaisir secret. Puis soudain, elle échappa à sa vue. Et des ombres s'éleva un chant d'une beauté si éclatante, d'un pouvoir si éblouissant, qu'il fut forcé d'écouter. Et il la chercha des yeux de côté et d'autre, devenu aveugle. Sa cour tout entière succomba au sommeil, et tous les feux baissèrent et s'éteignirent. Mais les Silmarils qui luisaient sur sa couronne s'embrasèrent tout à coup d'une flamme blanche. Et le poids de cette couronne et des joyaux lui firent courber le chef, comme si le fait du monde pesait sur eux, avec son lot de soucis, de peurs et de désirs, que même la volonté de Morgoth ne pouvait supporter. Alors Lúthien, retrouvant sa robe ailée, s'éleva dans les airs, et sa voix tomba comme des gouttes de pluie dans une mare sombre et ténébreuse. Elle jeta son manteau sur les yeux de Morgoth et le plongea dans un rêve aussi noir que le vide extérieur où jadis il marchait seul. Soudain il croula, tel une colline en avalanche, et jeté de son trône en un bruit de tonnerre, il resta étendu sur le sol des enfers. La couronne de fer roula de sa tête avec fracas. Rien ne bougeait plus. Beren était étendu à terre comme une bête morte. Mais Lúthien posa la main sur lui pour le réveiller, et il se défit de sa peau de loup. Il tira alors le couteau Angrist, et des griffes de fer qui le retenaient, il dégagea un Silmaril. Comme il refermait sa main dessus, la lumière rayonna au travers de sa chair, et sa main fut comme une brillante lampe. Mais le joyau accepta son toucher, et ne le brûla point. Il vint alors à l'esprit de Beren d'aller au-delà de sa promesse, et de sortir d'Angband les trois joyaux de Fëanor. Mais tel n'était pas le destin des Silmarils. Le couteau Angrist se cassa, et la lame fit voler un éclat qui atteignit Morgoth à la joue. Il grogna et s'agita, et toute l'armée d'Angband remua dans son sommeil. Lors, Beren et Lúthien furent pris de terreur et s'enfuirent, abandonnant tout déguisement et toute prudence, n'aspirant plus qu'à revoir la lumière. Ils remontèrent sans être inquiétés ni poursuivis, mais la porte était tenue contre eux. Karkaroth, en grand courroux, s'était arraché au sommeil et se tenait à présent sur le seuil d'Angband. Avant qu'ils l'eussent remarqué, tout à leur fuite, celui-ci les aperçut et se précipita sur eux. Lúthien était épuisée et n'avait ni le temps ni la force de contenir le loup. Mais Beren alla devant elle, brandissant le Silmaril dans sa main droite. Karkaroth s'arrêta et pendant un instant eut peur. « Va-t'en, fuis !» s'écria Beren. « Car voici une flamme qui te consumera, toi et tous les êtres mauvais !» Et il tint le Silmaril sous les yeux du loup. Mais Karkaroth regarda ce joyau béni sans se déconcerter, et l'esprit dévorant qui l'agitait s'embrasa soudain en lui. Et ouvrant brusquement la gueule, il saisit la main de Beren entre ses mâchoires et l'arracha au poignet. Bientôt ses entrailles furent tout enveloppées du tourment des flammes, et le Silmaril brûla sa chair maudite. Il fuit devant eux, hurlant à la mort, et les murs de la vallée retentirent de son effroyable clameur. Sa fureur était si terrible à voir que toutes les créatures de Morgoth aux abords de la porte ou sur les routes qui y menaient s'enfuirent au loin, car il tuait tout ce qu'il trouvait sur son passage. Et il surgit des terres du Nord, emportant avec lui la ruine du monde. De toutes les calamités qui s'abattirent sur le Beleriand avant la chute d'Angband, la folie de Karkaroth fut la plus terrible, car le pouvoir du Silmaril était en lui invisible. Or, Beren était évanoui sous la dangereuse porte, et la mort le guettait, car les crocs du loup étaient imprégnés de venin. Lúthien appliqua ses lèvres et aspira le poison, et elle exerça son pouvoir défaillant afin d'étancher l'horrible blessure. Mais derrière elle, des profondeurs d'Angband, s'élevait la rumeur d'une colère montante. Les armées de Morgoth s'étaient réveillées. Ainsi la quête du Silmaril manqua se terminer dans la ruine et le désespoir. Mais à cet instant, surgirent au-dessus de la vallée trois grands oiseaux volant vers le nord, aux ailes plus vives que le vent. Chez tous les oiseaux et bêtes, l'errance et la nécessité de Beren avaient été ébruitées, et Uan lui-même avait mandé à tous d'être aux aguets afin de pouvoir lui venir en aide. Loin au-dessus du royaume de Morgoth, veillaient Thorondor et ses vassaux. Et s'avisant de la folie du loup et de la chute de Beren, ils plongèrent sur eux à toute vitesse, tandis que les puissances d'Angband se libéraient des affres du sommeil. Alors Beren et Luthien furent soulevés de terre et portés au milieu des nuages. Sous eux le tonnerre gronda tout à coup, des éclairs jaillirent vers le haut et les montagnes tremblèrent. Le Thangorodrim crachait du feu et des vapeurs, et des jets de flammes dévastateurs étaient projetés au loin, ravageant les terres. Et les Noldor du Ithlom prirent peur. Mais Thorondor prit son vol loin au-dessus de la terre, par les routes du haut firmament, où le soleil brille tout le jour et où la lune se promène parmi les étoiles sans nuages. Rapidement, ils survolèrent Dor Nufauglith, puis Tar Nufuin, et enfin la vallée cachée de Tumladen. Aucun nuage ni brouillard n'en bloquait la vue, et Luthien, regardant en contrebas, vit au loin, tel un reflet blanc issu d'un joyau vert, la splendeur de Gondolin la Belle, où Turgon était établi. Mais elle pleurait, car elle croyait que Beren devait sûrement mourir. Il ne disait mot, ni n'ouvrait les paupières, et il ne sut jamais rien de cette envolée. Et à la fin, les aigles les déposèrent aux frontières du Doriath, et ils se retrouvèrent dans ce même vallon d'où Beren était parti au désespoir, laissant Luthien à son sommeil. Là, les aigles la déposèrent à côté de Beren et regagnèrent les cimes des Clisseigrim et leurs hautes aires. Mais Uan vint à elle, et ils soignèrent Beren ensemble, comme auparavant elle l'avait guéri de la blessure que Curufin lui avait infligée. Mais cette blessure-ci était funeste et venimeuse. Longtemps Beren resta gisant, et son esprit erra sur les noirs confins de la mort, en proie à un tourment qui le poursuivait de rêve en rêve. Puis soudain, alors que l'espoir de Luthien était près de se tarir, il se réveilla. Et levant les yeux, il vit des feuilles se détacher sur le ciel. Et sous les feuilles, douces et lentes, il entendit la voix de Luthien Tinuviel chantant auprès de lui. Et voilà que le printemps était revenu. Dès lors, Beren fut surnommé Ercamion, c'est-à-dire une main, et la souffrance resta gravée sur ses traits. Mais enfin, l'amour de Luthien le ramena à la vie, et il se leva, et ensemble, ils parcoururent de nouveau les bois. Et ils ne se hâtèrent pas de quitter cet endroit, qui leur paraissait beau. De fait, Luthien se disait prête à errer dans les terres sauvages sans jamais revenir, tournant le dos à sa maison, à son peuple, et à toute la gloire des royaumes des elfes, et pendant un temps, Beren ne demanda rien de mieux. Mais il ne pouvait longtemps ignorer son serment de retourner à Menegroth, pas plus qu'il ne désirait ravir Luthien à Thingol indéfiniment. Car il respectait la loi des hommes, jugeant mal avisé de bafouer la volonté du Père, sinon de toute nécessité. En outre, il ne trouvait pas convenable qu'une femme aussi belle et aussi royale que Luthien dût passer sa vie dans les bois comme les plus rudes chasseurs parmi les hommes, sans foyer ni honneur, ni toutes ces belles choses qui font les délices des reines de l'aile d'Allier. Et donc, après un temps, il la persuada, et leurs pas fuirent les terres sans asile. Et Beren entra au Doriath et la ramena chez elle. Leur destin le voulait ainsi. Le Doriath vivait des jours malheureux. Tous ces gens s'étaient murés dans le silence et l'affliction quand Luthien avait disparu. Longtemps ils l'avaient cherché en vain. Et l'on dit qu'en ce temps-là, Daeron, ménestrel de Thingol, quitta le pays et qu'on ne le revit jamais plus. C'était au son de sa musique que Luthien dansait et chantait avant l'arrivée de Beren au Doriath. Et il l'avait aimé, et toutes les pensées qu'il lui dévouait, il les mettait dans sa musique. Il devint le plus grand ménestrel des elfes à l'est de la mer, devant Maglor lui-même, le fils de Fëanor. Mais cherchant désespérément Lúthien, il erra par d'étranges routes, et traversant les montagnes, il passa dans l'est de la terre du milieu, où, durant des siècles, au bord des eaux sombres, il fit de tristes mélopées, en mémoire de Lúthien, fille de Thingol, la plus belle de toutes les créatures vivantes. À cette époque, Thingol se tourna vers Méliane, mais elle lui refusait à présent ses conseils, répondant que le destin qu'il avait ourdi suivrait son cours, et qu'il devait s'en remettre au temps. Mais Thingol apprit que Lúthien était parti bien loin du Doriath, car des messages de Celegorm lui parvinrent en secret, comme on l'a raconté, disant que Felagund était mort, que Beren était mort, mais que Lúthien se trouvait à Nargothrond et que Celegorm voulait l'épouser. Lord Thingol se courroussa et il envoya des espions à Nargothrond, songeant à entrer en guerre. Et c'est ainsi qu'il apprit que Lúthien s'était de nouveau enfui et que Celegorm et Curufin avaient été chassés de Nargothrond. Alors il ne sut que faire, car il n'avait pas la force de s'attaquer aux 7 fils de Fëanor. Mais il envoya des messagers à Himring, requérant leur aide pour retrouver Lúthien, puisque Celegorm ne l'avait pas renvoyé chez son père, ni gardé en sécurité auprès de lui. Dans le nord du royaume, toutefois, ces messagers se trouvèrent face à un péril inattendu. La charge de Kalkaroth, le loup d'Angband. Sa fureur l'avait porté comme une bête enragée à travers les plaines du nord et dans l'est de Tar Nufuin. Après quoi, il était descendu des sources de l'Esgalduin comme un feu dévastateur. Rien ne lui fit obstacle, et le pouvoir de Méliane aux abords du royaume ne l'arrêta pas, car il était mu par le sort et par la puissance du Silmaril qu'il portait en lui pour son malheur. Il fit donc éruption dans les bois du Doriath, jusqu'alors inviolés, et tous le fuirent dans la plus grande frayeur. Parmi les messagers, seul Mablung, premier capitaine du roi, en réchappa, et il retourna auprès de Thingol avec la terrible nouvelle. C'est en cette heure funeste que Beren et Lúthien arrivèrent en hâte depuis l'ouest. Et la rumeur de leur venue courut devant eux comme une mélodie que le vent portait dans les maisons assombries par le deuil. Lorsqu'ils se tinrent enfin devant les portes de Menegroth, une grande presse les suivait. Lors, Beren amena Lúthien devant le trône de Thingol, son père. Et ce dernier regarda Beren avec stupéfaction, car il l'avait cru mort. Mais il ne l'aima pas pour autant, à cause des malheurs qu'il avait apportés au Doriath. Mais Beren s'agenouilla devant lui et il dit « Je reviens comme je l'avais promis. Je réclame à présent mon dû. » Et Thingol répondit « Qu'en est-il de ta quête et de ta promesse ?» Mais Beren dit « Je l'ai rempli. Alors même que je vous parle, il y a dans ma main un Silmaril. » Lord Thingol dit « Montre-le-moi. » Et Beren tendit sa main gauche et ouvrit lentement les doigts. Mais elle était vide. Puis il leva le bras droit, et dès lors il se nomma lui-même Camlost, la main vide. Alors Thingol se radoucit, et ils s'assirent devant son trône, Beren à gauche, Lúthien à droite, et lui firent le récit complet de la quête, que tous écoutèrent avec émerveillement. Et il sembla à Thingol que cet homme n'avait rien de semblable aux autres hommes mortels, qu'il était parmi les grands Darda, et que l'amour de Lúthien était nouveau et étrange. Et il comprit qu'aucun pouvoir au monde ne pouvait contrecarrer leur destin. Ainsi finit-il par consentir, et Beren reçut la main de Lúthien devant le trône de son père. Mais un nuage assombrit la joie du Doriath au retour de Lúthien la belle. La cause de la folie de Kalkaroth étant désormais connue, on le craignit d'autant plus, car on le savait investi d'un pouvoir redoutable à cause du joyau béni et presque invincible. Et Beren, lorsqu'il apprit la venue du loup, comprit que la quête n'était pas encore achevée. Et donc, voyant que Kalkaroth se rapprochait chaque jour de Menegroth, on prépara la chasse au loup de toutes les expéditions de ce genre, la plus dangereuse jamais comptée. Y prirent part Uwan, le chien du Valinor, et Mablung la main lourde, et Beleg dit l'arc de fer, et Beren el Camion, et enfin Thingol, roi du Doriath. Ils montèrent en selle au matin et franchirent la rivière Esgaldwin. Mais Luthien resta aux portes de Menegroth. Une ombre tomba sur elle, et il lui sembla que le soleil prenait une teinte morbide et virait au noir. Les chasseurs allèrent à l'est et au nord, puis, suivant la rivière, ils tombèrent enfin sur Karkaroth le loup, au creux d'un sombre vallon, sur la face nord duquel le torrent de l'Esgaldwin plongeait en de rapides cascades. Au pied des chutes, Karkaroth étanchait sa soif dévorante, mais il hurlait, et c'est ainsi qu'ils le découvrirent. Or, les voyant approcher, il ne se hâta pas de les assaillir. Peut-être sa ruse diabolique s'éveilla-t-elle en son cœur, momentanément soulagée par les eaux douces de l'Esgaldwin. Et comme il venait vers lui, il se coula dans d'épais alliés et s'y cacha. Mais ils montèrent la garde tout alentour et attendirent, et les ombres s'allongèrent dans la forêt. Beren se tenait auprès de Thingol lorsqu'ils s'aperçurent que Uwan n'était plus à leur côté. Puis de terribles aboiements montèrent du fourré, car Uwan, désireux de voir ce loup, s'était impatienté et était allé seul le débusquer. Mais Karkaroth l'avait esquivé, et il surgit tout à coup des épines et bondit en direction de Thingol. Beren s'interposa, armé d'une lance, mais Karkaroth la balaya d'un coup de patte, terrassa Beren et planta ses crocs dans sa poitrine. À cet instant, Uwan jaillit hors du fourré et bondit sur le dos du loup, et ils se roulèrent au sol en une lutte acharnée. Et jamais a-t-on vu pareil combat entre chien et loup, car les abois de Uwan étaient ceux des corps d'Oromé et du courroux des Valar. Mais les hurlements de Karkaroth disaient la haine de Morgoth et une cruauté pire que des dents d'acier. Et leur clameur fit éclater les rochers qui se mirent à pleuvoir, engorgeant les chutes de l'Esgaldwin. Ils se livrèrent une lutte à mort, mais Thingol ne faisait pas attention à eux, car il s'était agenouillé auprès de Beren, le voyant gravement blessé. Ce jour-là, Uwan triompha de Karkaroth. Mais là, dans les forêts enchevêtrées du Doriath, s'accomplit le destin prédit pour lui de longue date, et il fut blessé à mort, et le venin de Morgoth entra en lui. Il vint alors, s'écroulant auprès de Beren, et parla pour la troisième fois. Et ce fut pour lui dire adieu, avant de rendre son dernier souffle. Beren ne répondit pas, mais il posa la main sur la tête de l'animal, et c'est ainsi qu'ils se séparèrent. Mablung et Beleg se précipitèrent au secours du roi, mais lorsqu'ils virent ce qui s'était passé, ils jetèrent leurs lances et se mirent à pleurer. Lors, Mablung se saisit d'un couteau et ouvrit le ventre du loup. Et on eût dit que des flammes avaient presque entièrement consumé ses entrailles, mais la main de Beren, tenant le Silmaril, restait intacte. Or, quand Mablung voulut y toucher, la main s'évanouit. Le Silmaril s'offrait à la vue, et sa lumière fit reculer les ombres de la forêt tout autour d'eux. Alors Mablung le prit avec crainte, et il s'empressa de le déposer dans la main qui restait à Beren. Et à son contact, Beren reprit connaissance, et il pria Thingol d'accepter le Silmaril qu'il lui tendait. « Maintenant la quête est achevée, » dit-il, « et mon destin est accompli. » Puis il se tut. Ils ramenèrent Beren Camlost, fils de Barahir, sur un lit de branchage, avec Uwan le lévrier à son côté. Et ils rentrèrent à Menegroth à la nuit close. Au pied du grand être Irilorn, Luthien vit s'approcher leur lente procession et le brancard entouré de porteurs de torches. Là, elle enlaça Beren et lui donna un baiser, lui disant de l'attendre au-delà de la mer de l'Ouest. Et Beren regarda dans ses yeux avant que son esprit le quittât. Mais les étoiles ne brillaient plus, et les ténèbres l'avaient gagnée, elle, Luthien Tinouviel. Ainsi s'acheva la quête du Silmaril. Mais le lait de Lethian, la libération des fers, ne se termine pas là. Car l'esprit de Beren, comme elle l'en avait prié, s'attarda en les halles de Mandos, refusant de quitter le monde avant que Luthien vint lui dire un dernier adieu sur les rivages obscurs de la mer extérieure, d'où partent les hommes trépassés pour ne jamais revenir. mais l'esprit de Luthien s'abîma dans les ténèbres avant de fuir. Et son corps resta comme une fleur que l'on coupe et qui demeure un temps au sol sans se faner. Puis, comme chez les hommes mortels dans leur grand âge, un hiver gagna Fingol. Mais Luthien entra au hall de Mandos, en ces lieux réservés à l'Eldalier, au-delà des palais de l'Ouest sur les confins du monde. Là, ceux qui attendent demeurent assis dans l'ombre de leurs pensées. Mais sa beauté était plus sublime que la leur, et son chagrin plus grand que leur chagrin. Et elle s'agenouilla devant Mandos et chanta pour lui. Le chant que fit Luthien devant Mandos fut le plus beau jamais conçu en mots, et la plainte la plus déchirante que le monde entendra jamais. On le chante encore, inchangé, impérissable, en Valinor, où le monde ne peut plus l'entendre, et les Valar sont toujours peinés de l'écouter. Car Luthien y mêla deux thèmes, ceux de la tristesse des Eldar et du chagrin des hommes, les deux peuples créés par Ilúvatar pour vivre en Arda, le royaume de la terre parmi les étoiles innombrables. Et comme elle se tenait à genoux devant lui, ses larmes ruisselaient sur les pieds de Mandos comme la pluie sur les pierres, et il la prit en pitié, lui qui jamais ne s'était laissé ainsi émouvoir, ni ne le fut depuis. Il fit donc venir Beren, et tout comme Luthien le lui avait dit à l'heure de sa mort, ils se retrouvèrent au-delà de la mer de l'Ouest. Mais Mandos n'avait pas le pouvoir de retenir l'esprit des hommes trépassés au-dedans des confins du monde, après leur période d'attente. Pas plus qu'il ne pouvait changer le sort des enfants d'Ilúvatar. Il se présenta donc devant Manwë, le seigneur des Valar, fondé à gouverner le monde sous l'autorité d'Ilúvatar. Et Manwë chercha conseil dans sa pensée la plus intime, où la volonté d'Ilúvatar lui fut révélée. Voici le choix qu'il offrit à Luthien. En considération de ses labeurs et de son chagrin, elle serait libérée de Mandos et irait à Valimar pour y demeurer parmi les Valar jusqu'à la fin du monde, en oubliant toutes les peines qu'elle avait connues dans sa vie. Là, Beren ne pouvait la suivre, car il n'était pas permis aux Valar de lui refuser la mort qui est le don d'Ilúvatar aux hommes. Mais une autre voie lui fut proposée, celle de retourner en terre du milieu et d'y emmener Beren pour vivre de nouveau là-bas, mais sans l'assurance d'une vie et d'une joie éternelle. Elle deviendrait alors mortelle et sujette à une seconde mort tout comme lui. Et avant peu, elle quitterait le monde pour toujours et sa beauté ne survivrait plus que dans la mémoire des champs. Elle choisit ce destin, tournant le dos au royaume béni et renonçant à toute parenté avec ses habitants. Ainsi, qu'importaient les souffrances qui l'attendaient, son sort rejoindrait celui de Beren et leur chemin les mènerait ensemble au-delà des confins du monde. Seule de toutes les Eldaliers, donc, elle mourut réellement, et il y a longtemps qu'elle a quitté ce monde. Mais à travers son choix, les deux peuples ont été réunis. Et elle est l'aïeule de nombreux descendants en qui les Eldar reconnaissent encore, bien que la face du monde ait changé, l'image de Luthien la bien-aimée, celle qu'ils ont perdue.